Laudetur Jesus Christus.
En ce lundi où l'Église célèbre la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église, le pape vient de présider la messe dans la basilique Saint-Pierre, une messe qui marque le jubilé du Saint-Siège. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur le sens de la mission des employés du plus petit État du monde. Nous y revenons au début de ce journal. Un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, mesure phare annoncée ce matin depuis Nice, où s'est ouverte une nouvelle conférence de l'ONU sur les océans. En présence de plus de 60 chefs d'État, les attentes sont grandes pour mieux protéger ces espaces vitaux de notre planète. À la une également, ces tensions aux États-Unis autour de l'arrestation de migrants en Californie où de nombreuses associations protestent. Donald Trump a envoyé la garde nationale pour y faire régner l'ordre. Et puis nous irons aussi en Bolivie où l'élection présidentielle du mois d'août prochain est parmi l'une des plus incertaines. Les explications à venir de notre correspondant à La Paz.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, 5000 fidèles ce matin présents dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion du jubilé du Saint-Siège. Ils ont passé d'abord la porte sainte avant de participer à la messe présidée par le pape Léon XIV. En ce lundi de Pentecôte où l'Église célèbre la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église, le pape a invité à se placer sous le regard maternel de la mère du Christ, Marine Henriot.
Oui, Olivier Bonnel, entouré des employés du Saint-Siège, Léon XIV est d'abord effectivement revenu sur la fécondité de Marie. Une fécondité essentielle, a-t-il dit, car c'est elle qui soutient Pierre dans son ministère. Et surtout, a expliqué Léon XIV, cette fécondité de Marie est la même que celle de l'Église. Elle est inséparable de la sainteté de l'Église. Enfin, dans la deuxième partie de son homélie, en cette journée spéciale, comme il l'a dit lui-même, de jubilé du Saint-Siège, Léon XIV en a profité pour expliquer aux employés et aux religieux présents dans la basilique sa vision de leur mission. Je vous propose de l'écouter. C'est pourquoi la meilleure façon de servir le Saint-Siège est de s'efforcer d'être saint, chacun selon son état de vie et la tâche qui lui est confiée, dit Léon XIV, une sainteté du quotidien qu'il a également illustrée en donnant aux employés du Saint-Siège des exemples.
Et così un padre o una madre di famiglia.
De même, un père ou une mère de famille qui vit une situation difficile à la maison, un enfant qui a des soucis ou un parent malade, a dit Léon XIV, et qui poursuit son travail avec engagement, cet homme et cette femme sont féconds dans la fécondité de Marie et de l'Église. Enfin, Olivier, dernier aspect du Saint-Siège développé par le pape, le fait de reposer finalement sur deux pôles, un pôle marial et un pôle pétrinien, deux pôles qui sont dépendants l'un de l'autre, le pôle marial a assurant la fécondité et la sainteté du pôle pétrinien.
Marine Henriot, merci beaucoup. Et cette cérémonie avait été précédée par une méditation donnée dans la salle Paul VI du Vatican en présence du souverain pontife. Méditation prononcée par sœur Maria Gloria Riva, une religieuse des adoratrices perpétuelles du Très Saint Sacrement. Elle est revenue notamment sur les fondements bibliques de l'espérance. Si la foi et la charité nous sont nécessaires pour vivre notre relation avec Dieu et les hommes, l'espérance nous est nécessaire pour comprendre le chemin de l'histoire, a-t-elle souligné. Toutes ces informations sur le jubilé et ces événements sont bien évidemment à retrouver sur vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, le monde au chevet des océans. Une nouvelle conférence internationale des Nations Unies s'est ouverte ce matin à Nice, dans le sud de la France. Plus de 60 chefs d'État sont présents, dont beaucoup venus du Pacifique ou d'Amérique latine, pour cette troisième conférence visant à mieux protéger un océan surchauffé, pollué et surpêché. Sommet co-présidé par la France et le Costa Rica. Face au défi, il faut relancer le multilatéralisme, a plaidé Emmanuel Macron, l'hôte de cette rencontre, en présence notamment du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les grands fonds marins ne peuvent pas devenir le Far West de l'extraction minière, a dénoncé ce dernier. L'appel à un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins qui reste fondamental, c'est ce que nous explique l'océanographe et plongeur François Sarano.
Il y a quelques décisions cruciales qui doivent être maintenues et la France en est leader. C'est l'interdiction formelle de l'exploitation minière dans les grands fonds marins parce que cette exploitation ravagerait pour toujours la vie très très fragile qui y réside. Mais la France devrait, en tant que pays autre, être exemplaire sur la protection des réserves marines qui sont nécessaires à la renaissance de nos océans. Or, aujourd'hui en France, qui clame avoir 30% de réserves marines, seuls 0,3% sont réellement protégés et il est temps qu'elles mettent en accord les dires et les faits et les actes. Mais je ne parle pas de Donald Trump qui, unilatéralement, décide d'aller exploiter les grands fonds marins, alors même que l'ensemble des nations s'était accordé sur une réflexion, sur un moratoire. La sagesse voudrait qu'on n'exploite jamais, parce que les écosystèmes profonds sont des écosystèmes qui ont un renouvellement extrêmement lent, et à partir du moment où on le détruit, ils ne reviennent jamais. Il faut des centaines, voire des milliers d'années pour qu'ils reviennent.
François Sarano, l'océanographe, interrogé par Delphine Allaire. Dans l'actualité également, les violences qui déchirent la région de Los Angeles en Californie depuis plusieurs jours. Des heurts opposent la police chargée d'expulser les migrants à des groupes et associations de défense de ces personnes. Une méthode musclée dénoncée par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, bête noire de Donald Trump, le président américain qui a décidé d'envoyer la garde nationale pour y faire régner la loi et l'ordre. À New York, Loïc Glory.
Depuis 1965, jamais la garde nationale n'avait été déployée sans l'aval d'un gouverneur. C'est pourtant bien ce qu'a fait Donald Trump. Les troupes seront là, assure-t-il, pour faire respecter la loi et l'ordre. D'après Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, le milliardaire ne fait que mettre de l'huile sur le feu de manifestations jusque-là relativement pacifiques. Après deux jours de tension malgré tout face à la police de l'immigration, la confusion s'est toutefois accru hier, en particulier devant un centre de détention où les forces de l'ordre ont riposté à coups de gaz lacrymogène ou de grenades assourdissantes, l'occasion d'un déluge de commentaires incendiaires de la part du président qui dit vouloir libérer Los Angeles d'une invasion migratoire. Donald Trump, qui n'avait pas encore été confronté depuis son retour au pouvoir à une opposition aussi frontale sur son dossier fétiche, a manifestement choisi le face-à-face. C'est l'escalade. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et l'archevêque de Los Angeles, Mgr José Gomez, dit prier pour que la situation reste calme. Des heurts ont également eu lieu à San Francisco où l'on dénombre 60 interpellations. En Bolivie, la course électorale est pleinement lancée. L'élection présidentielle aura lieu le 17 août prochain et vendredi dernier, le tribunal électoral a publié la liste des candidats officiels. 9 hommes et une femme vont participer à cette élection qui s'annonce particulièrement indécise. Les explications de notre correspondant à la page.
C'est sans aucun doute l'élection la plus incertaine de ces 20 dernières années en Bolivie. La gauche arrive divisée avec 4 candidats. Le mieux placé d'entre eux est Andrónico Rodríguez, 36 ans, président du Sénat depuis 2020, originaire du Chapare, le fief d'Evo Morales dont il était très proche jusqu'à il y a quelques mois. Mais la popularité de Rodríguez n'a pas plu à l'ex-président et ils sont désormais brouillés. Andrónico Rodríguez va donc essayer de capter les votes des partisans d'Evo Morales, qui lui n'a pas pu s'inscrire comme candidat. L'autre défi de Rodríguez sera de présenter des solutions à la crise économique qui touche la Bolivie. Forte inflation, pénurie récurrente de carburant et de dollars, une crise que la population attribue à la mauvaise gestion de l'actuel gouvernement de gauche, ce qui pourrait pénaliser Rodríguez. Quant à la droite qui arrive aussi divisée, elle va tenter de capitaliser sur cette crise et le fait que la gauche est au pouvoir depuis presque 20 ans. Les deux favoris sont des têtes connues, Jorge Tuto Quiroga, président du pays en 2001 et 2002, et Samuel Doria Medina, qui en est à sa 4e candidature à la présidentielle. Les deux hommes sont en bonne position dans les sondages et proposent de réduire les déficits publics, la taille de l'État et parlent même d'accord avec le Fonds monétaire international pour stabiliser l'économie bolivienne. La PAS. Nils Sabin pour Radio Vatican.
Une nouvelle nuit de bombardements massifs russes sur l'Ukraine. Près de 500 drones ou missiles se sont abattus ces dernières heures, selon l'armée ukrainienne. Et sur le terrain, les forces armées russes qui poursuivent également leur offensive dans l'est du pays. L'armée a pénétré ces dernières heures dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, qui borde celle de Donetsk. Une première depuis le début du conflit. Selon le Kremlin, l'objectif de cette offensive est de créer une zone tampon. Et puis le navire était parti de Sicile le 1er juin avec pour ambition de briser le blocus blocus israélien à Gaza. Le Madeleine, avec son bord 12 activistes de plusieurs nationalités, a été arraisonné par l'armée israélienne, puis dérouté vers le port d'Ashdod. L'État hébreu assure que les occupants du navire vont retourner chez eux. Lancé en 2010, la coalition de la flottille pour la liberté est un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens. La France demande que ses ressortissants présents à bord puissent rentrer dans les plus brefs délais. La situation humanitaire dans la bande de Gaza qui reste catastrophique. Ce week-end, l'Organisation mondiale de la santé a fait état d'un seul hôpital encore en service dans le nord de l'enclave. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité sur nos ondes, ce sera bien entendu ce soir à 18h. Vous serez accompagné de Xavier Sartre. Je vous souhaite d'ici là une excellente après-midi.